Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
À un moment donné, le drone s'arrête. Il avance plus. Le catamaran continue d'avancer. Les gars continuent d'avancer.
Et
moi,
le drone
je suis là avec mon
derrière.
Drone qui est bloqué, qui ne veut plus avancer tout devant. Quoi.
Donc là, du coup, je dis à Emmanuel, Emmanuel, le drone ne veut pas venir. Il faut y aller. On laisse les gars, ils se démerdent. Machin.
Ce podcast vous est présenté par l'ITShare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur l'ITShare.com.
Je crois qu'il n'y a pas une caméra pour tout. Il y a des caméras pour des situations. Je me marre trop avec eux, quoi. Enfin, tu vois, à quel moment une prod te dit « Demain, on tourne avec Thomas Pesquet, quoi. »
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Salut Florent.
Hello.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
Je suis ravi que tu sois parmi nous sur le podcast. Tu accompagnes depuis maintenant plusieurs années un célèbre duo qui a aujourd'hui l'une des chaînes YouTube les plus suivies de France. J'ai nommé McFly et Carlito. C'est pas rien.
Non, exactement.
Chacune des vidéos que tu réalises pour eux comptabilise des millions de vues et demande bien souvent de relever de nombreux défis techniques. À côté de leur chaîne YouTube, tu as aussi réalisé plusieurs courts-métrages indépendants ainsi que plusieurs vidéos pour Golden Moustache. On en parlera aussi. Entre tous ces différents projets, moi, je me pose une question. C'est aujourd'hui, comment tu décris ton job? Est-ce que c'est réalisateur, chef-op
Pour commencer à répondre à ta question, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à faire ce taf, si tu m'avais dit que je me vendrais comme chef-op un jour, je t'aurais un peu rionné. Je ne me voyais pas, si tu veux, dire aux gens « Ouais, je suis chef-op. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais gérer la lumière, le cadre et tout, aucun problème. » J'étais paralysé à l'idée juste de maîtriser déjà tous les aspects d'une caméra, de comprendre ce que c'était que le shutter, toutes ces trucs techniques. Et donc aujourd'hui, oui, je pense que j'ai un rôle un peu hybride, c'est-à-dire que je suis réal quand j'ai envie d'être réal à fond sur mes courts-métrages. Je touche pas une caméra, je suis derrière mon combo et je fais mon taf de réal. Mais c'est vrai que sur la chaîne des YouTubers stars, des gars, là pour le coup, je suis un réal, chef-op, techos, multicasquette, quoi. Je suis rarement réal et j'ai du mal à être réal derrière un combo, j'ai besoin de faire avec eux.
Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on appelle aujourd'hui vidéaste ou filmmaker, tu vois, un peu ce côté où
ouais, vidéomaker, ouais.
Caméra, le son, la light.
Ouais, après, là où je suis content, c'est qu'heureusement, sur les vidéos des gars, le son n'est pas un problème. On a quelqu'un, on a Martin Bonamy qui est notre super ingé son. Après, heureusement que ça n'en est pas parce que le son, c'est vraiment pas ma passion. Mais tout le reste, c'est vrai que j'ai du mal, en fait, même à lâcher la main. Il y a même des prods qui me disent « Flo, il faut que tu apprennes à être un peu plus réel parce que tu l'es. » Donc, c'est génial quand tu l'es. Mais lâche un peu la main sur la partie vraiment cadre et tout. Et en fait, j'aime trop ça. En fait, j'aime trop cadrer pour maîtriser exactement l'image que je veux. Et autant sur des fictions où tu as le temps de storyboarder avant, de dire exactement les plans que tu veux, de les faire, etc. Sur les vidéos des gars, c'est tellement du direct, tellement de l'adaptation, de la réactivité, t'es sur le feu, quoi, parce que tu le fais pas deux fois. Exactement, tu le fais. Il y a vraiment des trucs sur lesquels on ne le fait pas deux fois. Il faut être prêt avant, et ça fait partie des mantras des gars. C'est-à-dire que c'est ça qu'on attrape, et c'est pour ça que les gens aussi aiment, je pense, autant leurs vidéos. C'est qu'il y a un truc un peu spontané, premier. Enfin, tu vois, on sent que c'est pas scripté, on sent que c'est pas. C'est vraiment leur vraie manière d'être, quoi. Et ça, c'est dur à attraper parce que c'est one shot, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors du coup, avant de rentrer dans le détail de ce que tu fais aujourd'hui, on revient un peu en arrière. Comment toi, ça t'est venu un petit peu cette passion? C'est un truc que tu sors d'une école d'audiovisuel?
Non. J'ai en fait, au tout début, il y avait la caméra de mon grand-père. J'avais 10 ans, quoi. Et on s'amusait l'été avec mes cousins à imaginer des petites fictions comme ça et à se filmer à droite, à gauche, dans les rues de notre village en Corse. Et en fait, c'était, je crois, sans le savoir, c'était un peu le début de cette passion que j'ai eue après pour l'image. Et ensuite, il s'est passé un temps, et puis les études ont fait qu'avec des parents médecins, je me suis pas orienté directement vers l'audiovisuel. Je me suis dit, assure un truc un peu béton pour les rassurer, etc. Donc, je suis parti dans une école de commerce. Et dans cette école de commerce, je me suis rapidement dit, en fait, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire des stages et autant essayer de faire des stages dans l'audiovisuel au maximum parce que c'est finalement, je sentais quand même qu'il y avait une appétence pour ça. Et donc, dès la deuxième année, j'ai commencé à faire des stages dans l'audiovisuel. J'en ai fait 3 en tout. J'en ai fait un chez De Chavannes, la boîte Coyote, en assistant production. Donc, comme ils n'étaient pas en prod à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais du coup, j'étais quand même sur toute la relecture de script, etc. C'était l'époque où ils lançaient les réseaux sociaux aussi pour les boîtes de ce type-là, parce que ce n'était pas encore très à la mode, Facebook, etc. Donc, je gérais un peu les réseaux sociaux pour eux, le lancement des premiers réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, l'année d'après, j'ai fait Attends, dans l'ordre, il y avait quoi ? Il me manque un stage. Et le dernier stage que je fais, c'est avec Greg Guillotin.
Ok.
Greg Oui-Oui, à l'époque. À l'époque où il était Bengui. Avant même le studio Bagel, exactement. Ouais. Et en fait, je passe un entretien avec lui. Et il me dit, vas-y, viens, t'as l'air d'être un bon geekos. Viens, on bosse ensemble et tout. Et moi, entre-temps, je m'étais acheté une mini DV que j'avais poncée en 2 mois. J'avais plus assez de trucs, tu vois, à prendre avec. Donc, j'avais revendu la mini DV. Je m'étais acheté un caméscope. Et après le caméscope, très vite, en fait, j'ai acheté du matos et je suis monté en gamme. En moins d'un an, j'étais passé de la mini DV à une caméra objectif interchangeable de chez Sony, qui était la première à l'époque. Et du coup, ce faisant, donc, je rencontre Greg. Greg me dit, en plus, t'as ton matos, c'est cool, machin. Et donc, on commence à faire des Bengui ensemble. Donc, mes premières vidéos pour YouTube, finalement, c'était Bengui.
Ça remonte vraiment. Ah bah, au début, il n'y avait pas de Golden
2010,
Moustache,
2011,
il n'y avait pas de Studio Bagel. C'est
2011,
vraiment
2011.
Le début de YouTube, entre guillemets, français. Quoi.
Exactement. Et donc, du coup, on faisait des trucs, mais vraiment en mode loose day. Enfin, il s'est passé des tournages où on se retrouve au commissariat d'Argenteuil, où Bengui devait aller chercher une chambre d'hôtel au commissariat. Et l'anecdote a déjà pas mal été racontée par Greg, mais en fait, à un moment donné, le gars se fait embarquer par les pompiers parce que les flics étaient inquiets parce qu'il était très loin de chez lui. Et donc, du coup, moi, je me retrouve là seul avec une caméra cravate. Non, c'était pas une caméra cravate, c'était des lunettes. C'était affreux, c'était des énormes lunettes. À l'époque, on savait pas faire des caméras aussi cachées qu'aujourd'hui. Donc, j'avais des énormes lunettes cramées comme pas deux, un espèce de micro-cravate sur moi et lui, il n'avait rien sur lui. Donc, en plus, il n'avait rien pour désamorcer le truc. Donc, Greg se fait embarquer et part en hôpital psychiatrique, ce que j'apprends par la suite. Et moi, je me retrouve devant le commissariat d'Argenteuil, tout seul. Il avait les clés de la bagnole et je ne savais pas où il était allé. Et il m'a appelé 4 heures plus tard en me disant que son vrai père avait dû le venir le chercher. Enfin, moi, tu vois, c'est ce genre de prod. Au début, c'était vraiment les prods de la galère.
Il n'y a pas de prod exé derrière,
rien.
Qui accompagne,
c'était nous deux.
Qui tout fonctionne. Ouais,
c'était nous deux, il n'y avait rien de plus. Il venait, on faisait les montages dans la salle à manger de mes parents. Ma mère regardait les vidéos, elle disait, mais c'est pas drôle. Enfin, voilà. Enfin, c'était vraiment un truc, tu sais. Il n'avait même pas de bureau de prod à l'époque. Tu vois, on était vraiment chez moi ou chez lui. Voilà, et donc une fois que ce stage avec Greg se termine, moi, je finis mon école de commerce. Et à la fin de cette école de commerce, je me dis, bon, essayons quand même de faire une petite école de prod pour essayer quand même d'avoir un espèce de chemin qui puisse me permettre d'aller entre l'école de commerce et la réalisation, d'avoir un truc un peu plus orienté audiovisuel. Je m'inscris à la fac en master de prod, le master de François Garçon, qui était à la Sorbonne Nouvelle, Paris 1. Et il y a genre 600 dossiers pour 20 prix. Donc moi, je me dis, bon, si je ne l'ai pas, au pire, je commence à bosser, je commence à avoir des touches avec Greg et tout, je me dis, bon. Et je passe les oraux, etc. Et derrière les oraux, je suis pris dans les 20. Et donc, j'ai fait, après ces 4 ans d'école de commerce, un M2 en production de l'audiovisuel, en me disant, derrière ça, je veux être réal, mais avec la problématique financière aujourd'hui...
Tu gardes un pied côté business avec le côté producteur. Ouais.
En étant producteur, t'apprends les ficelles du métier et comment tu finances un film. Et comme moi, je commençais à avoir des envies de financer mes courts-métrages, je me disais que ça peut être intéressant. Et aussi, tu vas rencontrer potentiellement des futurs producteurs. Et aujourd'hui, j'ai plein de ces potes de cette promo qui sont soit scénaristes, soit producteurs, enfin qui ont aussi eu leur parcours, mais qui sont dans des grosses boîtes. Tu vois, et donc du coup, ça me permet d'avoir des super contacts en plus de mon réseau, quoi.
C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, l'avantage premier peut-être des écoles ou des facs, c'est pas forcément la technique que tu vas apprendre là-bas ou quoi, mais c'est plutôt le réseau que tu vas pouvoir créer parce que tous les gens qui seront avec toi seront sûrement demain de prochains producteurs, réalisateurs.
Exactement.
Et c'est là l'importance en fait de faire ces rencontres, quoi.
Exactement. Notre directeur de master nous a dit le premier jour, première phrase, il nous dit, vous allez oublier tout ce qu'on va vous apprendre. Il y a 2 choses que je veux pas que vous oubliez. Et du coup, je ne les ai pas oubliés, c'est d'être débrouillard et bien élevé. Débrouillard, parce qu'en étant débrouillard, vous allez toujours pouvoir bidouiller un truc et vous démerder avec des choses, même si vous ne les connaissez pas. Et bien élevé, parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'avoir un bon contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, c'est d'être poli, carré, etc. Et donc, bah, voilà, tu vois, quasiment 10 ans après, plus de 10 ans après, j'ai pas oublié cette phrase-là, alors que j'ai oublié tout le reste. Tout le reste.
Bah, ça me rassure parce que c'est pareil. Hein. J'ai oublié tout ce qu'on m'a appris dans ces écoles, mais par contre, derrière, ça m'a permis de faire un gros réseau aussi. Donc, c'est le plus important, je pense.
Exactement. Et voilà. Et derrière ce master de prod, bah, après, j'ai commencé à bosser pour des boîtes de parents, d'amis. Tu sais, faire une petite vidéo pour un site, machin, tout en continuant de bosser avec Greg.
Tu es passé dans plusieurs boîtes de prod à droite à gauche et tu as monté un statut d'auto-entrepreneur, en fait.
Ouais, exactement.
Et en 2010, sur lequel tu as fait un peu de corporate, un peu d'interview, de vidéo, un petit peu à droite à gauche,
exactement.
Littéralement.
Ouais.
Et tu t'es retrouvé aussi assistant cam sur un long.
En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été making of, en fait, sur un long et assistant réa.
Complètement.
En fait, le père d'un des très bons potes de mon frère s'avère être Eric Altmeyer, l'un des producteurs de Mandarin, qui est une des plus grosses boîtes de prod de ciné en France. Et du coup, à l'époque, c'était ça le stage que je cherchais. Du coup, j'avais fait mon stage
chez Mandarin
et j'avais été assistant à la mise en scène, stagiaire assistant mise en scène, donc équivalent quatrième as, sur le film de Rim Kérissi, Paris à tout prix. Donc c'était en 2012 si je dis pas de bêtises et voilà, et du coup c'était mon premier pas sur un long métrage. J'avais des étoiles dans les yeux de voir ces cams, ces optiques, ces configs énormes avec des sets à ne plus savoir qu'en faire, d'apprendre d'ailleurs qu'on ne tournait que 3 minutes utiles sur un film par jour, ce qui me rendait complètement dingue quand
comparé à ce que tu fais aujourd'hui. Tu te dis mais il y a un truc qui va pas,
un truc qui va pas. Clairement, et quand tu fais un 48 heures film project, tu te rends compte que on n'est pas sur les mêmes ratios. Mais donc voilà, effectivement t'es super bien renseigné, parce qu'après, donc avec cette auto-entreprise, j'ai bossé pour plein de boîtes à droite à gauche, comme on disait tout à l'heure, hors antenne.
En off, ouais.
En off, hors antenne, le mec il est à la radio.
Et bienvenue sur France Télévisions.
Et bonsoir, bienvenue sur France Lighty Share. J'ai notamment rencontré un gars qui pour moi a été un mentor au début de toute cette vie professionnelle, qui s'appelle Thierry Colby, qui est journaliste, et qui en fait un jour je vais le voir j'avais fait une vidéo avec Greg justement sur l'avant-première d'un film pour une boîte de, comment ça s'appelle, People for Cinema, je sais pas si tu connaissais ce truc là c'était une boîte de crowdfunding où tu misais sur des longs métrages, et si le long métrage dépassait son point d'entrée, son point mort, tu faisais un peu d'argent.
Ok, je connaissais pas du tout.
Voilà, et donc je faisais des vidéos pour People for Cinema à l'époque. Et on fait cette vidéo et je rencontre ce journaliste, je l'interview et il me dit « Ah, c'est marrant, j'ai besoin d'un monteur pour un tournage dans pas longtemps. » Voilà. Donc moi, je me dis « Bah, je saute sur l'opportunité, je le rencontre. » On parle. Et il me dit « Écoute, moi, je crois pas aux rencontres fortuites. Tu viens avec moi, on va au Festival de Cannes. » Et du coup, je faisais mon premier Festival de Cannes en JRI avec lui. En plus, c'était le dernier jour des accrèdes, donc direct, j'ai donné mon nom, mon machin, mon truc. Et j'ai fait 4 ou 5 ans de Festival de Cannes avec Thierry. Au début, c'était pour la chaîne E américaine. Après, ça a été pour Orange CinéD, etc. Enfin, et voilà, et on a fait... et donc, découvrir le plus grand festival de films, si tu veux, quand t'as 23, 24 ans et que tu démarres complètement dans ce métier, c'est incroyable.
Et surtout, en fait, cette expérience-là... Au final, maintenant, avec le recul, elle t'a sûrement apporté ce côté « Ok, faut savoir tourner immédiatement, faut savoir sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. » Parce que t'es JRI sur le Festival de Cannes, tu vas pas demander aux gens de repasser. Tes plans doivent être bons et tu tournes monté presque. En tout cas, tu tournes pour que ça soit parfait, quoi.
Complètement. En plus de ça, c'est vraiment, pour ceux qui ont bossé sur le Festival de Cannes, comme tu dis, s'il y a vraiment un truc de... tu dois sortir un sujet par jour et le lendemain, le sujet, il vaut plus la peine d'être fait, en fait. Une fois que la journée est passée, il y a une nouvelle actu, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle montée des marches, voilà. Et donc, en fait, ton sujet, il est à foutre à la poubelle si tu l'as pas sorti le bon jour. Et donc, du coup, c'est exactement ça. C'est une espèce de truc où tu as le temps de rien. En fait, tu dois être ultra efficace très rapidement. Et plus récemment, j'ai fait aussi le Tour de France en 2017 et 2018. Pareil, en JRI avec un pote pour Carrefour cette fois. Et pareil, tu vois, c'est de la route. Tu montes dans la bagnole sur une petite tablette pendant que l'autre y tourne. Et puis le lendemain, t'inverses.
Il y en a un qui fait le montage et l'autre qui tourne, quoi.
Dans les virages avec les coureurs qui t'arrivent derrière, c'est incroyable. Enfin, c'est des expériences de vie assez dingues, tu vois.
Ça, c'est ouf.
Et, mais donc, voilà, donc le parcours initial, c'est ça. C'est Et l'envie de faire ce métier, et je savais pas trop par où y rentrer, parce que avec deux parents médecins, comme je disais, j'avais pas de contact. Et en fait, ça a été plus par la chance de rencontrer. C'est con, hein, cette phrase. Hein. C'est une phrase d'Astérix et Obélix, mais les bonnes personnes au bon moment, quoi. Non, mais merci à Edouard Baird pour ça. Mais c'est la vérité, c'est que c'était juste ça, en fait.
Ah ouais, c'est
j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et
ça t'a permis d'avancer là-dedans, quoi. Et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves à réaliser les vidéos pour McFly et Carlito.
Ouais. Tu vois, même ça McFly et Carlito. C'était une de mes potes prod, enfin une de mes potes que j'ai rencontrée au master de prod, est devenue productrice chez Golden Moustache, m'a fait rentrer un jour chez Golden Moustache pour faire du montage. Elle a dit, je connais un mec qui pourra vous monter cette série, une série de Valentin Vincent. J'ai monté cette série et derrière, en fait, j'ai commencé à bosser un peu pour Golden. J'ai commencé à faire du making-of puisque je faisais aussi du making-of de long métrage en parallèle après l'expérience Mandarin. Du coup, j'ai commencé à faire des making-of de long. Et j'ai fait du making-of pour eux. J'ai fait le making-of notamment de la soirée Golden Moustache au Grand Rex.
Okay.
Et c'est là que Raph et David, McFly et Carlito m'ont un peu repéré, entre guillemets. Ils m'avaient envoyé un mail en me disant « Mec, cette vidéo, c'est génial. Tu te rends pas compte ce que ça représente pour nous et tout. » Et derrière, du coup, j'ai commencé à bosser avec eux, que j'ai réalisé aussi après des sketchs pour Golden, dont un qui est allé à l'Alpe d'Huez, d'ailleurs, un sketch d'Amaury et Quentin. Donc ça, c'était assez ouf comme expérience aussi. Et c'est comme ça
C'est une des vidéos Golden qui est allée au festival.
Ouais, c'était Hold Up, un sketch avec entre autres Francis Lalanne. Ce qui est quand même très drôle sur un CV de pouvoir dire que t'as tourné avec Francis Lalanne. Ouais, c'est génial.
C'est clair. Ça non plus, tu t'y attendais pas, je pense. S'il y a 10 ans, on te disait que t'allais réaliser une vidéo avec Francis Lalanne.
Non. Mais si je te fais du name dropping des gens avec qui on a tourné avec McFly et Carlito, ça ferait un peu Camoulox, tu vois. Ça n'a aucun sens. Aucun sens.
J'adore. Trop bien. C'est quand même vachement varié. Et ce que t'as fait pour, par exemple, Golden Moustache ou Bengi et là, McFly et Carlito, c'est des choses qui sont quand même très différentes. D'un côté, t'as de la fiction. De l'autre, c'est presque, on pourrait dire, du docu ou du lifestyle, ou je sais pas trop comment on pourrait appeler ça.
C'est pas de la télé parfois. Hein.
Et aussi un peu de la fiction, parce que des fois, j'imagine que vous avez des trucs un peu scriptés sur certaines vidéos, ou peut-être qu'il y a des mises en scène un petit peu plus travaillées. Mais donc, du coup, c'est vraiment où tu jongles, toi, vraiment entre différents boulots. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hors antenne, comme tu disais.
Et bienvenue sur...
où justement, tu bosses, t'es autant à la caméra réelle, derrière un combo, que à la caméra, le ronin à la main, en train de courir derrière deux mecs dans la rue et sans savoir ce qui va se passer dans 4 minutes, quoi.
Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, quand tu parles de courir avec le ronin à la main, ça me fait me rappeler qu'un des formats phares des gars, le YouTube Warrior, tu sais, c'est le truc où en fait, ils invitent des potes et il y a tout un parcours du combattant qui doivent... Et ça, c'est une des premières grosses réales que j'ai fait pour eux en chef-op principal, parce qu'à un moment donné, au début, j'étais leur cadreur. Ils m'appelaient pour faire du cadre, et puis c'était Raph qui faisait toutes les lismatos, qui faisait toute la réale, en fait, puisque lui, il a ce chapeau-là. Et au fur et à mesure, ils m'ont laissé petit à petit être chef-op en chef et à un moment donné, devenir leur réale. Et ces vidéos-là, les YouTube Warriors, il faut se dire qu'eux, ils font le parcours, ils sont rincés. Moi, je faisais tous les parcours
toi, t'es
avec
derrière.
Eux.
Bah ouais, c'est ça.
Donc du coup, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a, on a écrit ensemble et j'ai réalisé un court métrage avec eux qui s'appelle Unboxing sur le cyberharcèlement. Et là, pour le coup, j'étais réel derrière un combo à diriger les équipes et il y avait plus du tout cet aspect de faire.
Et alors, est-ce qu'il y a un de ces aspects, toi, qui t'intéresse plus qu'un autre? C'est des choses tellement différentes où au final, c'est complémentaire et ça te permet justement de varier un petit peu les projets
Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours au fond de moi l'idée que j'adore raconter des histoires. Pendant très longtemps, j'étais persuadé que ça devait absolument passer par de la fiction cinéma. Aujourd'hui, je remets un peu ça en cause parce que d'abord, on est dans une époque où il y a des documentaires d'une qualité exceptionnelle. Et qui raconte les histoires, des histoires, enfin tu vois, avec une profondeur et il y a tout ce que tu peux retrouver quasiment dans de la fiction, mais c'est la réalité. Il y a des manières de raconter et d'écrire des documentaires qui sont passionnantes. Et donc du coup, je me pose la question aujourd'hui de me dire, est-ce que ça doit absolument passer par la fiction, ce que j'adorerais quand même, hein, parce que j'ai dans ma besace des idées de long métrage que j'adorerais faire produire, parce que je pense qu'il y a des trucs qui valent vraiment la peine d'être mis en scène. Mais à côté de ça, j'ai aussi très envie de d'aller vers du documentaire comme ce qui est fait aujourd'hui, quoi, parce que je trouve qu'il y a vraiment une narration très intéressante.
Ouais, c'est vrai, quand on regarde, bah, après c'est un cas un peu particulier, mais le documentaire qui est sorti sur Orelsan sur Amazon, réalisé par son frère, c'est ce qui est assez dingue, c'est justement ce côté où en fait c'est des images qui datent d'il y a 15 ans, qui sont filmées sûrement avec une mini DV toute pérave, et au final t'arrives à raconter quelque chose d'extrêmement fort à travers ça. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une équipe de 150 gars avec des ingénieux, etc. Pour faire quelque chose de touchant et de profond, quoi.
Et même, tu vois, dans un autre style, mais pour aller dans ton sens aussi, je n'aimais pas la F1. Formula One, Drive to Survive m'a fait aimer la F1, ouais, alors que a priori, je me disais, ouais, enfin, il n'y a rien d'intéressant dans ce truc-là. Et là, pour le coup, c'est une grosse équipe. Mais en revanche, tu te dis, sur un thème sur lequel, a priori, il n'y a pas vraiment de... Voilà, il y a un truc incroyable qui se raconte, tu vois, et t'as l'impression de...
Le marketing fantastique de la F1 avec cette série Netflix, c'est incroyable. Même moi, vraiment, j'aime vraiment pas la F1.
J'ai acheté l'appli, c'est bon.
Ah ouais.
Je regarde le Grand Prix dimanche.
Putain, c'est fantastique. Non, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai regardé les nouveaux épisodes qui viennent de sortir, ça me bluffe à chaque fois, quoi. Je suis bluffé.
Il y a un storytelling, je te dis, il y a une narration que je trouve extrêmement intéressante. Non, et je me dis, ça c'est... Donc du coup, te dire, en fait... C'est marrant parce que quand je suis avec les gars, il y a des moments où je suis au fond de moi un peu stressé parce que c'est tellement du comme ça que t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Et ce truc-là de pas le droit à l'erreur, par rapport à mon histoire et par rapport au fait qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui ait particulièrement confiance en lui, c'est quelque chose qui me demande beaucoup. Ça me, tu vois, ça me demande de souffler, de te dire, tu sais ce que tu fais. Enfin, j'ai un gros syndrome d'imposture à la base.
Okay.
Parce que je viens de nulle part, que j'ai appris en regardant des tutos sur Internet et que avant d'être rassuré, j'ai besoin de beaucoup de choses, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, bon, arrête, tu fais partie des 4-5 réals de YouTube qui font les plus grosses vidéos, donc il faut que tu te détendes sur le fait que tu sais faire ton métier. Mais ça reste encore un travail que je fais sur moi. Mais du coup, pourquoi je te dis ça? Ah oui, mais donc du coup, ces moments-là de stress intense quand tu as des vidéos où, comme tu disais, tu ne sais pas où tu vas dans 4 minutes après, ça reste quelque chose qui ne me met pas extrêmement à l'aise. Mais quand c'est fini et que tu vois le résultat et que c'est canon, c'est no pain, no gain, quoi. Tu vois, tu as une espèce de truc où tu es ultra fier de toi et c'est très satisfaisant. Là où la fiction, c'est du détail, c'est autre chose, c'est de l'attente, c'est du travail de longue haleine que j'adore, mais qui demande aussi une autre forme d'effort, mais qui est un effort qui, pour moi, est moins douloureux parce que c'est un effort d'attente. Là où l'autre, c'est vraiment un effort de tu sais pas comment tu vas faire, mais tu vas y arriver.
Et puis, il y a un peu un mélange des genres, au final, dans ces vidéos-là, où ce qu'on voit avec la F1, etc., c'est que c'est pas juste de la news, enfin, tu vois, de l'information où on va suivre les coureurs, on va suivre là
sinon, ça aurait jamais pris.
Le duo, et tu les suis, puis pff, il se passe rien. Il y a quand même derrière, comment on raconte quelque chose avec ces images-là, et donc, du coup, il y a quand même un travail de narration qui doit être fait par toi en amont ou après, ou avec eux. Mais en tout cas, il y a quand même un travail de narration qui doit être fait comme pour une fiction au final, quoi.
Bah, un peu ce qu'on a essayé de faire avec le docu de la traversée.
Alors on va y venir à la traversée, très bel enchaînement. Mais avant ça, j'ai quand même une ou deux petites questions avant. On va y venir.
T'inquiète.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur le choix de la diffusion, le diffuseur. Est-ce que diffuser sur YouTube c'est une solution? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se financer en se diffusant sur YouTube? Toi qui as commencé il y a quelques années, au moment où par exemple Ben Guy faisait vraiment beaucoup moins de vues qu'aujourd'hui, enfin, ça n'a strictement rien à voir. Donc moi, je pense à ceux qui commencent à créer des contenus aujourd'hui et qui essayent de se dire « Ok, je vais diffuser sur YouTube
». En fait,
il y a un challenge quand même.
La problématique, c'est que moi, à l'époque, il y a une double problématique qui est un peu étonnante, c'est qu'à l'époque où nous, on commençait avec Greg et à l'époque où tous les gens d'aujourd'hui qui sont en haut de l'échelle commençaient, YouTube, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Donc, il y avait très, très peu de financement. Enfin, c'était vraiment un média qui était en train d'arriver. Tout le monde, c'était un peu le petit frère que tout le monde a ingrat, tu vois, que tout le monde regarde un peu de haut et que personne n'a vraiment envie de voir réussir. Et donc, du coup, quand on a commencé, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'argent du tout, ni rien. Et paradoxalement, il n'y avait personne, du coup. On était peu. Aujourd'hui, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup plus d'argent, mais il y a énormément de monde. Et pour arriver au top, c'est très dur parce que du coup, il y a énormément de contenu. Il y a des gens sur quasiment déjà tous les segments possibles et imaginables, de la vulgarisation en passant par l'entertainment pur et dur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est plutôt... tout est plutôt... Il y a des gens partout, quoi. Donc du coup, c'est très dur de faire sa place, j'ai l'impression. Mais pour d'autres raisons que ça l'était à l'époque. Pour autant, on le voit avec Michou et Inoxtag qui ont explosé en 2 ans. Il y a de la place. C'est juste, en fait, je crois que c'est comme... Enfin, c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est comme tous les métiers du monde. C'est pas plus... Enfin, c'est évidemment difficile, mais c'est pas plus dur de devenir YouTuber star que de devenir comédien star ou de devenir directeur PDG d'une grosse boîte, machin. Dans tous les jobs du monde, si tu veux être le meilleur, ça va être dur, ça va être long, ça va te prendre du temps, il va te falloir de l'énergie folle. Donc, je dirais pas que c'est plus dur qu'autre chose. L'avantage quand même qu'ont les générations d'aujourd'hui, c'est que avec ça, je monte un téléphone portable, un iPhone, tu peux faire une vidéo de qualité.
Ouais.
Tu as les moyens aujourd'hui avec quasiment... Et tu peux la monter, et tu peux l'envoyer directement. Donc aujourd'hui, tu as des moyens que nous, on n'avait pas à l'époque, quand on tournait en mini-DV, justement. Et donc, je trouve que ça aide, c'est censé quand même t'aider à pouvoir, même si t'es... Enfin, si t'y crois et que t'as envie d'essayer et que tu fais tes petits courts-métrages l'été avec tes parents, tes cousins qui jouent dedans, etc. C'est... Après, YouTube, en tant que diffuseur... Avec l'arrivée des plateformes, etc. J'ai l'impression que la nomenclature des médias est un peu en pleine refonte en ce moment, ouais. En plein de bouleversement. Et j'ai l'impression qu'il faut attendre encore un petit peu pour savoir vraiment où ça va s'arrêter. Est-ce que TikTok va venir remplacer complètement YouTube ? Est-ce que YouTube, à un moment donné, va devenir un média de vieux ? Le seul avantage qu'a YouTube, c'est que c'est un player et que du coup, à partir de là, tous les replays, tu peux les mettre dessus. Enfin, il y a une espèce de masse qu'il y a sur YouTube que tu peux difficilement avoir ailleurs, j'ai l'impression. Ne serait-ce que parce que TikTok et les contenus, ce genre de contenus sont vraiment plus faits pour les smartphones, étant donné que c'est filmé en 9/16e et pas en 16/9e. Alors que la télé, etc., on n'est pas encore passé sur du cadre en hauteur. Et je ne suis pas sûr qu'on y passe. Mais donc, du coup, je pense que YouTube reste une plateforme de diffusion très pratique. Mais tu vois, moi, ma chaîne YouTube, il y a 500 abonnés. Enfin, il n'y a rien, tu vois. Et je ne la pousse pas. Mais ça me permet juste d'être une vitrine de ce que j'ai envie de montrer.
Ouais, d'avoir un endroit où tu vas référencer un petit peu tes vidéos.
Et quand j'ai besoin d'envoyer une bande démo pour me vendre sur un projet, elle est dessus et basta, tu vois. Il y a tous mes courts-métrages. Mais je ne l'utilise pas pour devenir YouTuber.
Okay.
Après, tout dépend vraiment de ce que...
De l'ambition qu'il y a derrière.
L'ambition. Si l'ambition, c'est juste de pouvoir diffuser des vidéos, je pense qu'un player reste un player. En revanche, après, combien de temps YouTube va rester à la pointe en termes d'influence, etc., je ne sais pas.
C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est dur à dire.
La partie sur un peu le financement justement des vidéos web, c'est vrai que ça a beaucoup changé ces derniers temps. Je sais qu'aujourd'hui, là après, c'est peut-être un sujet qui toi te touche moins parce que je ne sais pas quel est ton statut sur ces prods-là maintenant.
En l'occurrence, sur les prods de Raph et David, le financement, il est comme sur les prods de beaucoup de influenceurs youtubeurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une marque vient, dit « on aimerait faire un contenu avec vous », les gars disent « on va faire ça comme contenu ». Ça, ils disent oui ou non et hop, on part en prod. Et moi, j'ai aussi toute une autre facette où quand je bosse pas avec eux, je bosse avec des boîtes de prod pour du brand content beaucoup, notamment pour Prime Video là ces derniers temps, où j'ai fait des vidéos pour leur chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Prime Video France. Et là, pareil, c'est la boîte de prod qui est contactée par l'agence qui gère le portefeuille de Prime Video. Et derrière, ils disent on veut agrémenter notre chaîne YouTube. On a ce budget et l'agence dit « Ok, on va vous proposer tel contenu pour la sortie de Totem, par exemple. » Et là, du coup, on a eu Théodore, pareil, dans les stars montantes. C'est quand même un boss, quoi, le mec, tu vois. Et donc, on a eu Théodore sur une vidéo avec un ancien agent de la CIA, du KGB. Et on a fait notre contenu. Mais en fait, par rapport au financement en tant que tel, soit c'est la marque qui veut produire pour sa chaîne, soit la marque va aller chercher des influenceurs pour des vidéos sur leur chaîne. Mais dans ces cas-là, voilà, c'est comme ça marche.
On est beaucoup sur les partenariats aujourd'hui. Voilà. On parle moins peut-être du financement avec la publicité sur les vidéos YouTube pure et dure gérées par Google.
Ça a réduit énormément. Pour le coup. Aujourd'hui, il faut être vraiment un gros YouTuber pour que ça soit vraiment une forme de revenu significatif. Quoi.
Et toi, du coup, dans tout ça, aujourd'hui, quand tu travailles, c'est avec un statut d'auto-entrepreneur, c'est avec un statut d'intermittent du spectacle réalisateur. C'est quoi aujourd'hui ta situation?
Alors moi, en gros, j'ai été pendant longtemps, j'utilisais mon auto-entreprise, sauf qu'à un moment donné, j'avais atteint les plafonds et que ça devenait un peu relou en fait, en termes de revenus. Et puis même, t'es pas très bien préparé à la retraite avec ce statut, à mon avis. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'était pas idéal pour toutes mes prods internet, avec McFly et Carlito ou même... les prods dont je te parlais, les brand content, les machins, je passe tout en intermittent du spectacle.
Ok, non, génial. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est justement d'avoir la reconnaissance du statut et du coup d'avoir le statut d'intermittent du spectacle pour avoir la sécurité derrière, etc.
Exactement. Et en plus de ça, comme je suis l'heureux papa d'une petite fille depuis un mois, bah, c'est pas mal, tu vois, là pour... merci. C'est pas mal là pour mon congé paternité, par exemple.
Ouais,
ou en me disant que si jamais à un moment donné, il y a de nouveau un gros confinement de 2 mois ou un truc comme ça...
Que tu te retrouves pas en galère.
Voilà.
Bah du coup, pour en rentrer un peu dans la technique, justement, l'une des grosses prods que tu as fait là, ces derniers temps, je pense que c'est La Traversée.
Ouais.
Donc, pour expliquer en quelques mots à ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo où McFly et Carlito font une traversée en... C'est quoi comme bateau?
Et c'est des rameurs faits exprès pour traverser des mers, des océans. Donc, c'est des rameurs qui font 6 mètres de long à peu près. Pour 1,5 mètre de large, 1,5 mètre, 2 mètres de large.
Quelques kilos à tirer, il me semble.
600 kilos,
c'est costaud, ouais.
Avec la bouffe et tout ce qu'il y a dedans, etc. Donc, c'est des sacrés bousins. Et aussi, pour que les gens se rendent compte, c'est un bateau qui avance en moyenne à 2 nœuds. 2 nœuds, ça fait 4 km/h, donc quelqu'un qui marche à pied, quoi. Et pour peu que tu aies 2 nœuds devant dans le sens face à toi, donc dans le sens dans lequel tu dois aller, bah, tu n'avances plus.
Ouais, c'est
tu
ça.
Es à zéro. Et si c'est de côté, bah, tu te décales. Donc après, il faut revenir dans ton axe. Donc c'est assez complexe comme.
Et la traversée, c'était jusqu'en Corse.
Exactement.
C'est ça,
on partait de Mandelieu.
160 km, c'est ça à peu près, hein, il me semble.
Ouais, okay. On partait de Mandelieu à Napoule dans la baie de Cannes et on arrivait à Calvi.
Ok, donc du coup, le gros défi pour toi, c'est suivre McFly et Carlito qui sont dans leur rameur sur 160 km à 2 nœuds, donc à peu près 4 km/h de vitesse. Qu'autant dire que ça prend du temps. Et tout ça, il me semble qu'il y a une retransmission live, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis derrière, une prod montée qui a été diffusée sur YouTube, qui culmine à plusieurs millions de lectures, un peu comme toutes les vidéos de toute façon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Moi, je suis vachement curieux de tout le côté technique qu'il y a derrière ça, déjà au niveau de l'équipe, que si j'ai bien vu dans la vidéo, il y a un catamaran qui les suit, sur lequel toi t'es, qui vous a permis un peu de gérer la partie technique justement avec le bateau, les caméras, etc. Donc d'un point de vue déjà humain, vous étiez combien sur la prod de cette vidéo?
Alors sur le bateau, on était 9.
Okay.
En dehors, il y avait un producteur, la manageuse des gars. Non, en prod, ils étaient plus, même ils étaient bien 2. Il y avait un cadreur sur la terre ferme, un ingé son sur la terre ferme. Je ne saurais pas te dire exactement parce qu'il y a aussi toutes les équipes de Red Bull qui ont travaillé sur le projet, puisque Red Bull était partenaire. Je pense qu'on était bien 20 personnes au moins à bosser dessus. En tout. Mais donc 9 sur le kata. Sur le kata, dans les 9, tu avais les 3 qui étaient les skippers.
Okay.
Donc Emmanuel Coindre, Patrick Favre et Pierre, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui était un de leurs potes, qui était venu aussi pour donner un coup à la patte, parce que évidemment, quand t'es sur ce genre de bateau, il faut tout le temps qu'il y ait un mec à la barre la nuit, parce qu'on était en pleine mer. Donc il y avait des quarts, comme dans les films. Et après, il y avait chez Red Bull, on avait Elodie, qui était avec nous, qui était de la team Red Bull. Il y avait moi. Et après, il y avait la team Gozulting, qui sont l'équipe technique, enfin les techniciens qui ont réalisé la partie live.
Okay.
Parce qu'en gros, moi, la partie live, j'ai tout de suite dit, c'est pas quelque chose que je gère. Et de toute manière, il fallait, comme il y avait Red Bull derrière et qu'il y avait ce live, il fallait qu'il y ait une équipe compétente et c'est les meilleurs. Donc là, il y avait un ingé son et un cadreur et un réalisateur de live.
Ouais, c'est des compétences qui sont très différentes.
Exactement.
Hein. Lancer un live en pleine mer que tu dois balancer en bonne qualité dans le monde entier versus réaliser une vidéo montée plus tard, c'est quand même vraiment deux métiers différents.
Exactement. Hein. Ah ouais. Exactement. Et donc, du coup, en fait, on s'est quand même rapproché. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on allait mettre comme caméra, où est-ce qu'on allait mettre, etc. Parce qu'en fait, bah, à partir du moment où leurs images allaient être mes images aussi, il fallait qu'on soit raccord sur ce qu'on utilisait.
Ok, donc du coup, vous avez un peu bossé en partenariat sur où est-ce qu'on place les cams, qu'est-ce qu'on prend comme cam, etc.
Okay. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est que moi, comme souvent sur ce genre de projet avec les gars, quand c'est des énormes projets complètement nouveaux que personne n'a jamais fait avant, bah, t'es un peu obligé d'inventer ta liste matos, en fait. Personne ne l'a fait, donc tu dois un peu trouver le meilleur moyen de les mettre en image. Et la grosse inconnue technique, c'était la nuit. Parce qu'en fait, toute la journée, grosso modo, on savait qu'on allait avoir ce qu'il fallait pour les filmer.
Sur la journée, déjà, t'es quoi? T'as un drone?
Sur la journée, bah, en gros, je vais te faire, si tu veux, toute la liste technique, puis après, je te la décris. Mais en gros, on avait 2 FX3, une sur terre, une à terre, une sur le bateau, une FX6. En optique, on avait de mémoire un 24-105, un 70-200. Et un 24-70.
Donc ça, en fait, quand tu dis sur le bateau, c'est toi qui la gères sur le kata pour les filmer, eux, à distance.
Moi et le cadreur.
Ok.
Gozulting, qui du coup utilisait ma FX6. Enfin non, d'ailleurs, je crois que c'était la leur en plus. Je te dis des bêtises, c'est eux qui l'avaient loué. Et donc du coup, il utilisait la FX6 qu'on avait pris en location pour le live au début. Et donc c'était le point de vue catamaran, quoi. Ça nous permettait d'avoir un plan sur eux pour le live et même pour la suite, pour l'arrivée aussi, enfin les deux lives. Et pendant la traversée, ça permettait, si jamais à un moment donné, moi je filmais quelque chose avec une des cams, que lui puisse.
Il en est une de un voilà, spare, quoi.
Exactement. Mmh. Et il y avait une dernière caméra, en termes de vraie caméra, parce qu'après tout le reste, c'est de la action cam. On avait aussi une caméra XF405 de chez Canon.
Ok.
Tu sais, c'est des modèles vraiment très JRI. Je crois que c'est XF, hein. Et c'est 400 ou 505, je ne sais plus laquelle des deux. Et c'est une caméra de JRI qui a la particularité d'avoir un mode infrarouge. Et donc, du coup, en fait, c'était ça qui nous intéressait, d'avoir un mode infrarouge depuis le bateau, depuis le catamaran, pour pouvoir filmer les gars la nuit, en plus des caméras dont je vais te parler juste après, qui étaient sur le rameur. Donc, comme ça, on avait quand même la possibilité d'avoir un point de vue, et il a été très important ce point de vue d'ailleurs, infrarouge au loin. Et en plus de ça, du coup, on avait rajouté une minette infrarouge, qui est une petite lampe Sony, quoi, qui envoie un signal infrarouge plus fort que celui de la caméra de base, et qui te permet de filmer au loin.
Au loin, ouais. Okay.
Voilà, d'avoir une réponse en fait, parce que sinon tout est noir avec du bruitage, quoi. Donc, ça, c'était pour la partie caméra à bord.
Parce que t'as trois nuits, c'est ça, ou deux nuits?
Il y a eu trois nuits.
Trois nuits, hein. Ok.
Ouais.
Ouais, donc t'as quand même.
Enfin, sachant que la dernière nuit, c'est l'arrivée.
Ouais, mais bon.
Il y a eu trois en plus, phases de nuit.
Raison de plus, du coup, l'arrivée, c'est le moment le plus important.
Ouais. Et en même temps, ça a été magnifique parce qu'on n'allait pas leur dire, les gars, vous attendez au large de Calvi 2-3 heures et puis après, vous arrivez au petit matin, quoi. C'était compliqué, tu vois. Et après, sur le bateau de McFly Carito, sur le rameur, pardon, je vais l'appeler le rameur, t'avais une GoPro 360. Qui était accroché sur une barre au sommet. Celle-là, j'y tenais beaucoup parce qu'en fait, ça te permet de récupérer quoi qu'il arrive. S'il se passe un truc à côté, s'il y a un.
Ouais, notamment, c'est pas mal d'avoir un dauphin.
Il y a un dauphin qui saute à un moment donné, juste à côté du bateau, pour attraper un truc que David a mis à la mer, un bout de bouffe qu'il a balancé à la mer. Et bah, on l'aurait pas eu si on avait eu la caméra 360. Mmh. Et puis, même au-delà de ça, ça permettait d'avoir un point haut qui nous permettait de voir le bateau depuis un peu plus haut et de pas être que en caméra embarquée, quoi.
Parce que sinon, toutes tes GoPro en fait étaient accrochées tout autour du rameur. Donc, du coup, c'est quand même des points de vue très proches.
Exactement.
Et celle-là, ça te permettait de prendre un peu de distance. Exactement.
Donc, en fait, on avait pris une perche d'ingé son qu'on avait glissé dans les poignées latérales du rameur et après gaffé, clampé, etc. Okay. Et ça bougeait plus.
Et vous n'aviez pas pu, justement, parce que là, on est d'accord que c'est quand même une opération qui est faite pour être filmée, très clairement. Enfin, toute la traversée est pensée pour être filmée. Du coup, est-ce que toi, tu as pu intervenir un peu en amont sur la préparation du bateau pour dire, OK, comment on va pouvoir placer nos caméras? Est-ce qu'on va faire un trou, un endroit de la coque pour placer un pied, quelque chose?
Alors ça, on n'avait pas le droit parce qu'en fait, il faut partir du principe que c'est des bateaux qui valent très cher.
Ouais.
Et que même si c'était une énorme opération et que après coup on a l'impression que c'est un truc hugissime, en réalité, le bateau appartenait à Emmanuel Coindre et tu ne fais pas de trou qui ne soit pas rebouchable facilement. Surtout sur un bateau comme ça où lui il a vécu des aventures avec, où le bateau se retourne, etc. Donc tu peux pas te permettre, tu vois, d'avoir un point de faiblesse du bateau après avoir fait un trou pour les deux troublions du web. Donc en fait, on avait le droit de faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, notamment ça. Mais en revanche, quand il a été question vraiment d'installer les caméras et tout, Emmanuel était avec nous à chaque étape pour nous dire, voilà, là, tu peux tirer les câbles ici, tu peux les faire passer par là, comme ça, ça ne les gênera pas dans leur mouvement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, les gars, ils faisaient gaffe aux cam, évidemment, parce qu'ils savent que c'est filmé et que c'est le but, c'est que ça rende. Mais au bout d'un moment, ils s'en foutaient complètement. Le but, c'était de survivre, c'était de finir cette aventure, parce qu'à un moment donné, ils étaient à deux doigts de tout lâcher, de tout arrêter.
Ouais, on voit bien dans la vidéo qu'ils sont à bout et que c'est vraiment un effort physique qui est terrible et qu'eux n'en peuvent plus. Donc je peux imaginer qu'au bout d'un moment, tu oublies qu'il y a la caméra, tu oublies qu'il y a le câble.
Tu vois, il y a un moment donné, David parle tout seul aux caméras. Bah, heureusement qu'on avait les cams parce que ça lui permettait à lui d'évacuer un truc, quoi, de se faire du bien en parlant aux gens parce qu'il savait que voilà, à un moment donné ça le rassurait. Et donc du coup, une fois qu'il y avait cette caméra 360, après on a clampé des GoPro à droite à gauche, donc il y en avait une à l'intérieur qui filmait l'intérieur du bateau. À côté de celle-là, il y avait une des fameuses caméras dont je vais te parler après, et ça c'est drôle comment elles sont arrivées sur ce tournage, mais j'avais une caméra de sécu de policier.
Ok.
C'est des trucs que tu trouves sur Amazon piétons, à 80 euros. Okay. Mais qui font un mode infrarouge de qualité médiocre, mais qui marche, mais qui surtout en fait passe tout seul en infrarouge et en jour, et qui peuvent enregistrer en fonction de ta carte SD. Mais nous, on avait mis des grosses de 128 gigas, quasiment 36 heures d'affilée.
Ok, ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est justement comment tu gères sur ces GoPros qui sont à distance, parce que toi, tu es sur un catamaran, il faut le rappeler, qui n'est pas collé au rameur. Donc, comment tu vas gérer le côté data, batterie, s'assurer que les caméras tournent bien?
J'y reviens juste après. Et donc, du coup, il y avait cette petite première action cam, là, caméra de surveillance piéton. Et à l'extérieur, pareil, rebelote. Là, il y avait trois GoPros à l'extérieur, une dans chaque axe du rameur, une vers l'avant du rameur pour voir la direction, une vers l'arrière du rameur pour voir la partie justement cabine, etc., et le rameur de dos, quoi. Et une dernière caméra infrarouge slash sécurité slash police slash civile à l'extérieur, qui est celle qui a tourné le plus longtemps quasiment. Elle a quasiment tout pris. Et du coup, voilà. Et en fait, pour la partie vraiment batterie, etc., Gozulting avait proposé cette idée qui est vachement bien. C'était de mettre des batteries, des accus de chargeurs de téléphone portable,
okay.
Comme on a tous aujourd'hui dans nos sacs, puisqu'on a tous besoin de se recharger à des moments quand on n'est pas chez nous. Et voilà, et en fait, les GoPros étaient branchés là-dedans, et ça rechargeait les GoPros du coup en continu. Et on s'était dit que grâce à ça, les GoPros pouvaient tenir grosso modo une dizaine d'heures toutes seules. Donc, on savait qu'il allait falloir changer ses batteries, mais au moins, ça nous permettait de ne pas emmerder les gars trop souvent. Et ensuite, du coup, on avait des cartes SD qui nous permettaient de faire 8 heures à peu près d'enregistrement continu sur les GoPro. Et sur les cams dont je te parlais tout à l'heure, ça tournait d'un
seul. Large, là.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à des moments clés de changement de cas entre Raph et David, on s'approchait avec la sécu, l'équipe technique montait sur le bateau, récupérer les batteries le plus vite possible pour pas faire dériver les gars, parce que chaque fois que tu les fais dériver de 200 mètres,
ouais,
c'est 30-40 minutes de perdu. Peut-être pas autant, mais voilà, t'as l'idée. Rémi montait à bord et il s'occupait de toutes les caméras. Il enlevait toutes les batteries, il enlevait les cartes SD, il en mettait des neuves. Et nous, après, on rechargeait tout sur le catamaran. Parce que sur le catamaran, comme du coup, on allait très lentement, on n'était pas à la voile, on était au moteur. Et quand t'es au moteur, ça recharge les batteries du bateau. Et donc, du coup, tu peux te brancher... Okay. Et recharger les batteries sur le catamaran. Et pour le drone aussi, pour la petite anecdote, j'avais acheté une espèce de batterie géante de drone sur laquelle tu branches tes batteries et tu as grosso modo, je crois, 6 charges avec cette espèce de plate.
Parce que du coup, tu tournais avec un drone DJI,
c'est Mavic R2S, okay. C'est le mien.
Et avec un R, putain, ok.
R2S, ouais.
Et ça va, il a pas pris, parce qu'en pleine mer, écoute, il est léger, donc j'imagine que...
Ouais, mais il est moins léger, version est moins légère. Moi, j'avais le R première génération,
ouais.
J'avais pris les deux, parce que le R première génération, je l'ai toujours un peu en spare, quoi. Et là, le R2S, il ressemble quasiment à un Mavic Pro, hein. Il est un peu plus dodu qu'avant, ouais. Et il a une sacrée patate, et en fait, tous les plans de drone ont été faits avec celui-là. Drôle, c'est que plus je le faisais au décollage, j'avais aucun problème, parce qu'en fait tu le décolles et hop, très vite tu le dégages, très vite des câbles, des trucs. Mais il faut se dire que sur un catamaran, t'as pas 36 000 endroits où tu peux atterrir, parce que il y a des câbles partout, des cordes, des cordages, et donc tu peux atterrir que devant, pas loin, entre en gros l'endroit où il y a l'espèce de filet et voilà la partie cabine. Donc t'es obligé de venir atterrir sur un truc qui fait la taille de cette table à peu près, hein, donc pas grand chose, quoi. Et au démarrage, pour l'anecdote, on sort du port de Mandelieu. J'ai le drone et tout. Il est branché dans une télécommande, donc il l'a aussi pour le live, puisque j'avais les grosses télécommandes DJI, là. Vachement pratique, parce qu'il y a du HDMI, donc je l'envoie en signal, voilà. Et à un moment donné, le drone s'arrête. Il n'avance plus. Il peut aller à droite, à gauche, reculer, mais il n'avance plus. Et donc le catamaran continue d'avancer, les gars continuent d'avancer.
Et moi, je suis là avec mon drone
qui est bloqué, qui ne veut plus avancer tout devant, quoi. Il veut bien aller partout, sauf devant, sauf dessus. Et là, d'un coup, je me rends compte qu'en fait, on est sur la toute fin, parce que j'avais regardé avant quand même les no-fly zones, et je savais qu'il y avait l'aéroport de Mandelieu, de Cannes, pardon. Mais j'avais vu qu'il s'arrêtait avant et qu'il n'y avait pas de problème. En fait, il y avait un tout petit bout de no-fly zone qui finissait juste à cet endroit-là et qui faisait que le drone ne voulait pas avancer parce qu'il considérait qu'il était encore dans la fin de l'aéroport. Et donc là, du coup, je dis à Emmanuel, le drone ne veut pas venir, il faut y aller, on laisse les gars, ils se démerdent, machin. Le catamaran fait demi-tour, retourne en arrière, j'atterris le drone en catastrophe. Le truc est venu se poser dans le filet, il avait encore les hélices qui tournaient dans le filet. Et donc, on a commencé sur ce truc-là, tu vois. Évidemment, personne ne l'a su parce que, enfin, tu vois, c'est
des... Ouais, bien sûr.
Voilà. Et après, ce qui était marrant, c'est que...
Tu te mets en confiance avant 3 jours de tournage en pleine mer.
Exactement. Et en fait, ce qui est marrant avec les drones, pour les gens qui en ont déjà piloté, c'est qu'il y a vraiment une histoire de confiance en soi. Quand t'es bien, que t'es serein, que tu sais que tu gères, ça roule. T'auras jamais aucun problème. Dès que t'es un peu
pas bien sur
tes appuis, c'est là que tu fais des conneries. Et après, donc, du coup, le faire redécoller le soir pour avoir le coucher de soleil et tout, c'était un peu coton, mais il n'y avait pas un pet de vent, rien, donc ça allait. Et en fait, je le refais atterrir nickel. Et après, plus on avançait dans le séjour, plus la fatigue montait et plus les atterrissages étaient folklore. Et il y a eu 2-3 atterrissages où je me suis dit, je vais perdre mon drone, c'est fini. Et donc, heureusement, je le back-upais après chaque vol, parce que sinon, il partait à la baille avec les trucs. Et au final, il a survécu et c'était épique, le drone sur le kata, parce que vraiment... En plus de ça, à chaque fois, je leur demandais de casser la vitesse du catamaran parce que atterrir sur un bateau qui avance, il n'y a rien de pire. Parce que tu dois, en même temps que tu descends, avancer, machin, c'est infernal. Et donc, du coup, ils étaient obligés de casser la vitesse. Donc, on s'éloignait des gars. Enfin, c'était tout un... Techniquement, c'était assez marrant. Et voilà. Et après, donc, niveau backup, ça a été quand même le gros sujet, c'était ça. Donc, en gros, heureusement, j'ai été aidé énormément par l'équipe de Gozulting là-dessus, alors qu'eux, normalement, après leur live, ils n'avaient plus besoin normalement de bosser avec moi. Donc, ils m'ont énormément aidé et je les en remercie beaucoup. Mais en gros, ils m'ont aidé à faire les backups. Et en fait, à chaque fois qu'on récupérait des cartes, on backupait. Jour 1, jour 2, jour 3.
Toi, tu commençais à monter direct?
Non, on n'a pas. Non. Là, c'était juste du backup. Ouais. On avait tout juste le temps de faire ça parce qu'en fait, finalement, les journées passaient très vite parce qu'on les filmait toute la journée depuis le bateau. Déjà. Ouais. Voilà, tu les filmes, il se passe des trucs toute la journée. En plus de ça, il s'est réellement passé des trucs toute la journée entre la faune et la flore qui sont venus nous dire bonjour, les baleines, les dauphins, le poisson lune, les mouettes à l'arrivée. Enfin, il se passait un truc tout le temps, les ferries qui nous faisaient des vagues de ouf. Enfin, il y avait un truc tout le temps à filmer, toute la journée. Et quand tu filmes pas, tu faisais les backups. Et quand tu faisais pas les backups, tu essayais de bouffer un bout. Et voilà, et du coup, au final, on a bossé non-stop. Et la première nuit, et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de l'importance de la caméra infrarouge sur le bateau, sur le catamaran. Bah, c'est la première nuit quand ils vomissent, etc. Moi, il doit être 23h. On est debout depuis 6h du mat. Donc, tu commences un peu fatigué, tu vois.
Ouais, t'accuses le coup. Ouais.
Exactement. Et là, à 22h, je me dis, allez, je fais un dernier plan avec la caméra infrarouge. Donc, je les filme de loin comme ça. Et là, je vois Raph vomir. Et j'ai pas le retour son, j'ai rien. Mais je vois juste vraiment un liquide tomber du bateau.
Parce que vous aviez pas de connexion, enfin, t'avais des talkie-walkie avec eux.
Juste talkie, ouais.
Mais vous aviez pas de connexion directe à chef. Je sais pas, on aurait peut-être pu imaginer, je sais pas, est-ce que la distance aurait permis de faire une connexion à chef vidéo même?
On l'avait juste
au live
au début à l'arrivée. Okay. Et à l'arrivée, on a commencé le live trop tôt parce que les gars ont galéré à remonter à un moment donné contre le vent. Et donc le live, à un moment donné, le son a coupé.
Ah merde, ok.
Et donc du coup, c'était même nous qui parlions aux gens. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Non mais attendez, c'est quoi cette préparation? Vous vous rendez pas compte ?» En fait, il faut se rendre compte que toutes les équipes avaient dit « Si on commence le live à cette heure-là, il faut qu'on ait fini en 3 heures, sinon les batteries ne tiendront pas. Il faudra qu'on remonte sur le bateau comme on a fait jusqu'à présent. Mais là, c'est un live, donc tu peux pas te permettre de le faire.
Ouais, » ouais.
Et ça en fait, tout le monde a dit « Bah, on y va. » Et en fait, bah, les 3 heures sont passées. Et une fois que les 3 heures sont passées, bah, ce qui devait arriver, c'est que les batteries ont claqué. Quoi. Et pour le coup, sur des systèmes son, alors peut-être que je dis une bêtise, mais sur ce genre de système HF, il n'y a pas de système de plug pour te brancher et avoir un courant continu en même temps que tu tournes. Tu es obligé d'être sur pile.
Ouais, comme tu pourrais avoir pile sur une cam.
Voilà. Alors que sur les GoPro, etc., et c'est pour ça qu'on a pu garder le live vidéo, c'est que c'était branché sur des AAQ et donc du coup, ça continuait de tourner. Et donc, les backups, ouais, on les faisait en direct. Donc, on avait renommé toutes les caméras. Je te rassure, il y a eu des moments où on s'est fait des petites frayeurs. Il y a des cartes qui n'avaient pas été entièrement bien backupé. Heureusement, on avait tout gardé à la fin, donc on a récupéré quelques rushs d'une des GoPro. Voilà.
T'as pas le droit à l'erreur là sur ce genre de tournage. Tu peux pas te permettre de dire bon, désolé les gars, j'ai perdu une des cartes. Non, c'est pas possible.
Non, exactement. Non, en revanche, on a perdu une des cams. On a perdu une des action cams qu'on avait mises à l'intérieur, les fameuses cams de sécurité. On en avait trois en fait. Il y en avait une qu'on avait gardée sur le bateau catamaran au cas où on voulait filmer un peu l'équipe. Et le dernier jour, pour montrer l'effervescence qu'il y avait sur le bateau, on l'avait accrochée sur le carré. C'est l'endroit de vie de l'équipage pour voir tous les gens s'activer, etc. Et en fait, il y a un changement de batterie juste avant le début du live. Et donc, je dis aux équipes de Gozulting, Rémi, prends-la avec toi et tu vas te filmer comme ça pour qu'on ait un point de vue POV de toi en train d'installer, de changer les GoPro. Ça peut être intéressant qu'on l'ait. Et en fait, il y est parti et il l'avait clampé comme ça, machin, et elle n'est jamais revenue la caméra. Elle a fini entre Calvi et, et quelques 15 km au large de Calvi.
Voilà, bah, si jamais vous voulez retrouver la caméra, hein, partir à la pêche, quoi, faire un peu de plongée, il y a peut-être des bonnes images à retrouver. Quoi. Et du coup, sur un tel projet, t'as combien d'heures de rush à la fin ?
Ils ont fait en 65 heures le truc, et je pense qu'on a... Enfin, sur certaines cams, on a tout.
Okay, donc
sur certaines cams, il y a 65 heures d'image.
T'as 5 fois 65 heures à dérocher.
Bah, et... Plus même, puisqu'en fait, t'as une dizaine de cams en tout.
Ouais, donc t'as 10 caméras fois 65 heures.
Ouais. Et alors non, heureusement, sur les caméras qui sont sur le bateau, c'est des caméras où je faisais vraiment du plan d'illustre, tu okay. vois. Donc là, t'as,
ouais, là, t'as
moins.
Un peu moins.
Les okay. caméras, les FX3, les FX6, t'as beaucoup ouais, ouais. moins. Okay. Hormis les phases de live au début et à la fin où là, t'as tout. T'as fait beaucoup, beaucoup d'images. En fait, surtout, je pense qu'au-delà même... Tu vois, sur le docu qu'on est en train de faire sur l'année des garçons, il y a 190 heures d'images. Et là, c'est une seule caméra. Donc, c'est très long. Là, tu dois tout dérocher.
Faut tout regarder.
La ouais. différence avec ce qu'on a là, c'est qu'en fait, il y a un seul moment.
Ouais, tu synchronises et puis tu regardes.
La difficulté, c'était de synchroniser. Ça, c'est sûr. Mais l'avantage qu'on avait, c'est que sur ces fameuses caméras dont on parle depuis tout à l'heure, que d'ailleurs, je vous encourage à regarder parce que c'est assez intéressant. Quand tu as besoin de plusieurs points de vue et notamment de caméras qui font de l'infrarouge, il n'y a pas grand-chose en caméra aujourd'hui pro. T'as pas grand-chose qui fait de l'infrarouge pas cher, en fait. Enfin, c'est très vite exorbitant comme prix. Et donc, sur ces caméras-là, en plus, l'avantage, c'est qu'il y avait la date et l'heure.
Ah, donc parfait pour faire un timestamp sur les timecodes sur les
exactement.
Sur les,
donc, quand le monteur galérait avec une cam, il regardait ce truc-là, il regardait à peu près les vêtements qu'on avait chacun et il savait à quelle heure, tu vois. Non, mais vraiment, c'est véridique, hein, c'est des vrais trucs.
Toi, du coup, tu bosses sur le montage avec le monteur, tu laisses un peu la main, comment
en
ça se passe ?
En fait, en gros, là, ce qui s'est passé sur ce montage-là, et j'ai eu plus la main que d'habitude parce qu'en général, surtout Raph et David qui font leur retour. Moi, je fais des petits retours un peu de réal, mais plus genre. Là, tu peux utiliser un autre plan parce que celui-là il tremble un peu trop, ou là, tu peux pas mettre un peu d'étalot parce que je trouve que c'est un peu. Voilà, moi c'est plutôt ça en général sur les vidéos des garçons, mis à part le court-métrage parce que c'était Maréal, donc là c'était autre chose. Et en revanche, pour ce qui est du docu, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a Jérôme Fillette, notre assistant monteur depuis des années, qui a tout synchronisé, fait tout le déroge. Donc lui, c'est. Et puis c'est, en plus de ça, c'est comme une bibliothèque, ce gars-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu lui dis « je cherche Tolstoï », il va te sortir le bouquin, il va te faire alors page 1, et il connaît tout. C'est-à-dire que si tu lui demandes à un moment donné quelque chose, il va te dire « ah oui, ça c'est tel jour, ouais. après le tournage de tel machin, il y a tel rush, ouais, enfin, il connaît tout.
Okay. »
Et donc du coup, lui, il a fait tout le travail.
Excellent assistant monteur, du coup.
Excellent assistant monteur. Ouais. Jérôme, si tu nous entends, tu nous entendras pas, je sais pas, enfin bref. et du coup, derrière ça, tu as Florian Tuckett qui récupère et qui fait le montage. Et donc, Florian a fait un premier montage qu'il m'a envoyé en premier avant d'envoyer au gars. Un peu exceptionnellement, tu vois. D'habitude, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et là, moi, je lui ai fait des retours parce que justement, ça ressemblait trop au début à YouTube. Il y avait trop de whoosh, de transition, de trop cut, trop machin. Et je lui ai dit, il faut qu'on prenne plus notre temps. Il faut que ça ressemble plus à un documentaire. Il faut qu'il y ait moins de musique dans tous les sens. Il faut que ce soit plus.
Tu prends
une musique,
quoi.
Tu la laisses longtemps. Il faut qu'il y ait une narration. Tu fais chuinter un plan d'Esta avec la voix off des gars qui commencent à parler en dessous. Tu n'as pas besoin d'être en cut net à ce moment-là. Enfin, voilà, il faut que ça ressemble plus à un tout plutôt qu'à une espèce de vidéo où on essaie d'aller vite et un peu cut, un peu machin. Sauf le début et l'intro, évidemment.
Ouais, parce que la vidéo, au total, je crois, fait 1h10, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, pour le coup, c'est un format... Pour les garçons, c'est pas habituel parce que leurs vidéos sont en général un peu plus courtes ou en tout cas on n'est pas sur un format d'une heure comme ça qui raconte autant de choses sur.
Après, en 2021, ils ont commencé à faire des formats longs avec déjà la vidéo du président, le concours d'anecdotes qui était déjà très longue.
C'est vrai.
Mais en fait, on avait déjà commencé à faire. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis avec eux, au début, on faisait des vidéos de 15 minutes. Après, un jour, il y a eu la première vidéo de plus de 30 minutes. Et puis un jour, il y a eu la première vidéo de plus de 45. Et puis un jour, la première de plus d'une heure. En fait, je crois qu'ils le disent souvent aux monteurs, tant que le contenu est bon, on s'en branle de la durée.
Et puis on remarque aussi, je pense, une certaine appétence aujourd'hui des gens sur que ça soit en vidéo, podcast ou autre, où en fait, à partir du moment où, comme tu dis, le contenu est intéressant, en fait, il n'y a plus cette nécessité de se dire il faut produire un format de 3 minutes maximum, 4 minutes, parce que sinon les gens s'en vont. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, de plus en plus de créateurs poussent les limites et poussent des vidéos de plus en plus longues, des interviews de plus en plus longues, voilà, sur tous les sujets. Et les gens continuent à regarder. Il y a plus de problématiques là-dessus.
Parce que YouTube et les réseaux sociaux sont devenus un média à part entière et que les gens passent. Je pense, en tout cas moi personnellement, je passe plus de temps là-dessus que à regarder la télé. Je regarde la télé que pour regarder le sport, en fait, des matchs, c'est tout. tu vois, de sport. Sinon, vraiment, la télé, je regarde rien du tout. Et donc, j'ai le sentiment quand même que le fait que les gens passent plus de temps dessus te permet de te dire, bah oui, évidemment que le gars, il va regarder son Thinkerview de 2 heures parce que bah, c'est passionnant et que on s'en fout de la durée, en fait. Alors qu'il y a 5-6 ans, tu faisais un truc de plus de 30 minutes, c'était osé.
Ouais,
quoi.
C'était compliqué, ouais. Ouais, c'est clair. C'était parce pas qu'en encore, fait, YouTube était consommé comme un à côté de la télé, exactement. Des émissions, exactement. Etc. Alors que maintenant, c'est devenu un des médias principaux.
Exactement. Ouais. Et donc, voilà, donc le montage, ça a été ça. Moi, j'ai fait mes retours là-dessus. Et ensuite, on a rajouté à ça les interviews de Raph et David qu'on a filmées dans le cinéma dans lequel on a fait l'avant-première ensuite, qui est le CGR de Nanterre. Et là, on a fait une belle interview pour rajouter un petit fil rouge.
Okay.
Parce qu'on se disait, ça peut être intéressant quand même de raconter certaines choses en off pour que les gens se rendent bien compte avec le recul. Et moi, je dois quand même vous dire un truc, c'est que je suis quelqu'un d'assez émotif et j'ai donc chialé pendant la traversée, ça, no joke. Et après, à chaque fois que j'ai revu ce film, j'ai lâché ma larmichette à chaque fois. Tu me mets de la musique, tu me mets des copains en train de souffrir, c'est fini, moi, c'est...
Ciao. Et puis aujourd'hui, j'imagine que c'est quand même... Bon, à part peut-être la vidéo à l'Elysée qui est aussi un niveau de, je sais pas, de what the fuck, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais d'inattendu, en tout cas. C'est peut-être une de tes prods où c'est un gros défi technique, il se passe quelque chose d'assez costaud pour toi à relever, à réussir à produire. J'imagine que c'est une expérience assez particulière.
Honnêtement, c'est en termes techniques et tout ce que tu veux, émotionnel et tout, c'est largement au-dessus de celle du président.
Okay.
Je pense que le président de la République, déjà, c'est un truc qu'on maîtrise quand même vachement bien. Le concours d'anecdotes, c'est pas, tu vois, c'est pas.
Ouais, c'est un format que vous avez déjà
fait plein
de fois.
Entre guillemets, c'est pas sorcier parce que c'est un champ contre champ en plan large, une jolie lumière. Enfin, rien de. Enfin, il y avait la partie à la fin avec le concert. Hein, enfin voilà, mais rien d'insurmontable techniquement. C'est assez facile.
Ouais, c'est plutôt le côté inattendu peut-être de se dire ok, demain je vais aller tourner à l'Elysée.
Voilà. Il y a une fierté parce que tu te dis je tourne avec le président de la République à l'Elysée, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de ce genre de choses, donc ça c'est chouette, ça c'est vraiment t'es fier en fait, t'es fier parce que c'est un endroit mythique,
tout le monde n'y met pas les pieds, donc
exactement.
Juste à partir
il y a
de
ce
là
truc-là. En revanche, en termes d'émotion, en termes techniques et en termes de fierté de résultat, il y a deux poids deux mesures, quoi. C'est, je veux dire, la traversée, c'est quelque chose que j'aime regarder parce que c'est une enfin au-delà même du résultat visuel, c'est une aventure humaine qu'on a vécue complètement dingue. Et on a vécu en plus une année particulière avec Raph et David parce que justement après le président de la République, on a eu une période assez dure dans notre taf tous les trois ensemble. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, des boulettes, des trucs, voilà, qui ont fait qu'on s'est engueulé assez fort. Et ça a été un point de rupture où on s'est demandé si on allait continuer de bosser ensemble. Et du coup, on était vraiment à un moment pas évident, quoi. Après 5 ans de boulot ensemble, tu peux te poser la question légitimement de te dire est-ce que c'est pas le moment de renouveler d'un côté comme de l'autre. Et au final, le pendant de ça, ça a été la traversée. La traversée, ça a été le moment où en fait, on s'est rendu compte que je suis pas quelqu'un de faussement modeste ou de pas vraiment modeste, mais qui fait croire qu'il est modeste. Mais je crois que pas grand monde aurait pu faire le taf que j'ai fait sur ce truc-là particulier avec eux. D'abord parce que j'ai le pied marin et donc ça aide aussi. Et parce qu'il fallait effectivement cette espèce d'adaptabilité un peu hors du commun où t'oublies en fait de compter tes heures, où t'oublies de machin. Et en fait, je les ai soutenus parce que si je les connaissais humainement et techniquement, ils savaient que ça allait être carré, que le résultat allait être canon. Donc en fait, ça a été le pendant positif de ce moment un peu dur après le concours d'anecdotes avec le président. Et donc humainement, tu vois, ça reste un des trucs dont je suis le plus fier dans mon parcours pro depuis que j'ai commencé.
Ouais, mais je comprends tout à fait. T'as besoin de t'adapter très rapidement quand t'es sur un tournage avec eux. Enfin, vraiment particulièrement sur celui-là, parce que c'est dans des conditions extrêmes où pour eux, c'est un effort de dingue d'avancer. Donc, tu vas pas leur dire, ouais, les gars, vous pouvez reculer de 50 mètres et on recommence, ou c'est pas possible.
Non.
Donc, justement, il y a quand même, je pense, dans ce métier-là, quand tu commences à suivre des gars, un vrai intérêt à les suivre sur la durée parce que tu vas vraiment apporter quelque chose parce que tu les connais. Et quelqu'un qui ne les connaîtrait pas va réussir à les suivre. C'est techniquement filmé, c'est filmé, mais est-ce qu'il va réussir à capter les bonnes images? Par contre, là, on peut se poser la question.
Non, c'est vrai. Et puis surtout qu'en plus de ça, comme on est vraiment devenus potes au fur et à mesure, et je pense particulièrement avec cette année, je crois qu'en fait, à un moment donné, on se comprend tu vois, sans se dire forcément les choses. On s'engueule encore, on n'est encore pas d'accord sur plein de trucs, on se chambre, on se tout ce que tu veux, mais je crois qu'aujourd'hui, enfin, il y a un truc où on se le dit, on se dit, on est content de bosser ensemble, quoi. Et pour autant, tu vois, tu pourrais te dire qu'au bout d'un moment, bah, moi, j'ai un peu, enfin, j'ai aussi envie de faire autre chose, c'est sûr, tu vois, mais je me marre trop avec eux, quoi. Enfin, tu vois, à quel moment tu peux te dire, d'un coup, tu te réveilles et tu te dis, une prod te dit, demain, on tourne avec Thomas Pesquet, quoi. Enfin, tu vois, à quel moment tu tournes avec tous les gens avec qui on a tourné. Enfin, c'est, on a qui fait ça autre que, tu vois, et qui le fait avec cette espèce de truc de nonchalance,
légèreté.
Enfin, tu vois, les contenus, c'est ce qui est. Enfin, il n'y a pas de on va charter un truc très télé, ou enfin, tu vois, c'est on fait ce qu'on a envie de faire et on s'amuse. Et nous, on se marre beaucoup, hein, derrière les caméras. Hein. Faut pas croire, hein, sur la vidéo Pierre Ninet, on était pliés en deux. Moi, à un moment donné, j'ai verrouillé le trépied et je pleurais de rire. Et donc, le trépied était. La cam serrée, je l'opérais plus pendant une minute parce que j'étais mort de rire. Pareil avec Jonathan Cohen. Moi, Jonathan Cohen, il m'a fumé de rire sur le TripAdvisor. Et il y a vraiment des moments où enfin, t'es derrière et tu te pisses dessus, quoi. Avec Martin, il y a des moments où on se regarde, on est mort de rire. Et c'est ça qui est génial. Enfin, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent se dire, enfin, se targuer de dire que. Quand ils partent bosser, ils savent qu'ils vont se marrer tous les jours quasiment.
Ouais, c'est clair.
Au-delà du stress inhérent qu'il y a, parce qu'il y a un stress énorme et il y a une pression et ils rigolent. Enfin, tu vois, quand il faut faire des vidéos, et avant la vidéo, avant qu'on ait rentré tout ce qu'on doit rentrer, ils peuvent être un peu voilà, carrés. Il faut que ça roule parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est une chaîne à millions et millions de vues. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc moyen en fait.
Sur toutes ces différentes prods, toi, globalement, tu tournes souvent avec le même matos parce qu'il y a aussi cette question-là d'être préparé à l'imprévu. J'imagine que ça prend aussi le fait d'éviter de changer de caméra toutes les semaines et de devoir redécouvrir les configs, etc. Tu as un peu une config favorite quand tu réalises les contenus pour eux. C'est quoi un peu ta façon de bosser?
En fait, tu vois, quand je te disais au tout début que je ne me serais pas vendu en chef-op quelques années plus tard, en fait, je crois qu'aujourd'hui, si je peux me vendre en chef-op aussi, c'est parce que j'ai touché à tellement de caméras différentes que aujourd'hui, avec eux ou même avec d'autres gens, il n'y a pas une caméra sur laquelle je me dis, bah, hormis vraiment, mais ça, on n'y est pas encore, hein, et puis il faut un assistant forcément, mais tout ce qui va être caméra de cinéma, Arri, tout ce genre de caméras-là, ça, c'est des caméras que je touche peu parce qu'on n'a pas les budgets pour avoir ce genre de caméra. Maintenant, je sais à peu près les opérer si jamais je devais les opérer seul. Mais en revanche, sur tout ce qui est le reste, j'ai utilisé à peu près tout ce qui est possible d'utiliser et j'adore ça, en fait. Je suis un énorme geek. J'adore suivre Philippe Blum, je ne sais pas si tu connais, qui est le ponte du test de matos, etc. J'adore ces vidéos. Je regarde des trucs comme ça tout le temps. Quand j'ai besoin d'un truc très particulier en caméra, je vais me renseigner pendant des heures pour savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre un GH5S ou une Blackmagic ou machin. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un crop factor comme ci ou est-ce qu'il vaut mieux avoir la stabilisation du capteur, une bonne dynamique, une mauvaise dynamique range. Enfin, j'ai tendance à vouloir vraiment, tu vois, connaître tous les matos différents. Maintenant, quand je bosse avec eux, j'ai plusieurs configs que j'aime particulièrement. J'adore toute la gamme Sony pour bosser avec eux parce qu'ils ont un autofocus de fou furieux.
Tout ce qui est FX6, FX3, voilà. Les Alpha.
Ouais. C'est les dernières versions ont des autofocus de bâtard. En plus, tu peux l'opérer avec le touchscreen et tu peux faire des passages de points entre un tel et un tel avec ton touchscreen et c'est ultra propre et c'est utilisable tel quel. Donc en général, moi j'adore cette config et en termes d'optique, moi il y a une optique que j'adore chez Sony que j'ai pour le coup depuis le début, depuis le jour où j'ai commencé à faire de la vidéo quasiment, c'est un 1805 f4 motorisé avec un petit servo zoom sur le côté qui est ultra léger. Alors il est APS-C, mais comme je fais de la vidéo, je m'en fiche un peu. Et il est ultra léger, ultra compact et tu fais absolument tout avec. Il a un bon piqué, il est vraiment très pratique.
Ouais, tu t'emmerdes pas à switcher dans 16-35, 24-70, 70-200 en fait, tes trucs. Là, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité de plan.
Et en vrai de vrai, le 24-70 jusqu'à là, il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, les capteurs n'étaient pas encore stabilisés. les 24-70 ne sont pas des optiques stabilisées en général. Et donc, du coup, tu te retrouves avec ce truc un peu shaky, pas très pratique dans les configs dans lesquels moi j'évolue beaucoup.
Ouais, t'es obligé de
j'avais besoin d'un optique
derrière,
stabilisé. Donc,
ouais.
Cette optique-là était déjà stabilisée depuis le début. Donc, ça, c'était pratique. Maintenant que les capteurs sont stabilisés, je te dirais que ça peut être intéressant. Mais les 70-200, 2.8, c'est des bousins en général. C'est des trucs qui pèsent ultra lourd. Donc, moi, en général, pour en tout cas ce que je fais aujourd'hui avec les gars, c'est-à-dire des trucs très... quand on est très comme ça, à bouger dans tous les sens, etc., j'ai toujours plutôt tendance à privilégier du F4 un peu longue plage focale pour pouvoir tout préparer. Voilà.
Ouais.
Après, quand on est posé comme un concours d'anecdotes, là, tu es au 24-70, au 70-200 de 8 parce que tu as envie d'isoler ton sujet du fond, mettre un joli flou avec des beaux bokeh derrière, et voilà. Mais en fait, pour moi, je crois qu'il n'y a pas une caméra pour tout. Il y a des caméras pour des situations. Et j'aime Sony parce que je trouve qu'ils ont, ils ont éclaté le game à partir du moment où ils ont sorti les séries A7. Maintenant, Canon a bien rattrapé son retard avec les R5, les R6, etc. Et c'est très beau. Mon frère bosse avec ça. Et c'est, franchement, j'adore. Ils ont une texture de peau que je trouve très jolie. Voilà, donc ça c'est ma config un peu avec les gars. Et moi en perso, j'ai une cam que peu de gens connaissent qui s'appelle la Z-Cam, qui est une caméra chinoise qu'ils appellent un peu avec Kinefinity, qui est une autre marque.
C'est,
voilà.
Je pense à Kinefinity, mais c'est pas.
Bah non, c'est une autre marque.
Ok, d'accord.
Et Kinefinity, vraiment, ils l'appelaient la Red parce que vraiment, quand tu vois le modèle, tu te dis, ça, c'est la même caméra quoi. Là, ça ressemble plus à. Panasonic a sorti après eux une caméra qui lui ressemble, qui s'appelle le S1H, mmh. qui est une espèce de caméra boîtier. C'est un carré, c'est un petit cube. La Z-Cam, c'est pareil. Moi, j'ai la Z-Cam S6, qui est le Super 35, qui fait du 6K. Et ça, en fait, c'est, si tu veux, c'est le même capteur qu'une Blackmagic 6K, enfin Pro, ouais. quoi, la Blackmagic Pocket Pro, là. Mais avec un form factor de caméra beaucoup plus pratique parce que c'est un cube et donc en fait tu l'accessoirises comme tu veux, tu la clampes, tu la mets sur un Ronin, tu la fous sur des ventouses sur une bagnole. D'ailleurs, sur beaucoup de films d'action, ils l'utilisent en trashcam. Quand tu as peur de
ouais,
d'éclater une caméra, tu mets celle-là. Voilà, et parce que justement, la color science de Z-Cam est très proche d'Arri. Et donc, tous les films qui se filment en Arri utilisent en général, quand il y a de l'action et qu'il y a besoin d'une petite caméra à mettre dans un angle un peu pourri, ils utilisent la version F6 full frame de chez Z-Cam. Et donc, moi, j'ai ça avec. Et je trouve que c'est une super cam parce que contrairement à Blackmagic, elle te propose aussi d'avoir des codecs un peu plus compressés, ne pas être que en ProRes.
Okay.
Ce qui est assez pratique d'avoir du H265 de temps en temps quand tu n'as pas besoin d'avoir forcément un truc trop lourd après en post-prod. Il y a ça, il y a meilleure cadence d'image aussi. Et je te dis, moi, cette caméra-là, depuis que je l'ai, je trouve qu'elle a un grain de peau qui est vachement agréable, vachement plus ciné, en fait. Tu vois.
Du coup, c'est avec cette caméra-là que tu as bossé sur tes courts-métrages ou
C'est avec cette caméra-là que j'ai tourné notamment un de mes courts-métrages qui s'appelle Orage.
Ok, c'est le dernier.
C'est l'un des derniers que j'ai fait, ouais. C'est une fiction en plan séquence qui était en finale du Nikon il y a 2 ans, qui est en fait adapté d'un texte de
Corneille.
De Corneille, exactement, qu'on a coécrit avec ma chérie, et qui en fait, on a réadapté le texte à une situation contemporaine qui est les violences policières faites aujourd'hui dans les cités. Et du coup, voilà, c'est un texte qu'on a réécrit, c'est un plan séquence, donc c'est Z-Cam sur Ronin, à l'époque c'était mon Ronin 1. Enfin, Ronin S1, pas le RS2. Bref, c'est un peu complexe, tout leur numéro, là. Mais le Ronin à une main, là. Pas le Ronin M, le première génération,
C'est le S, le S.
Voilà, avec une optique... comme en plus de ça, c'était la Z-Cam que j'avais, le modèle d'avant, elle était en micro 4 tiers. Donc, j'avais une optique Lumix dessus, un 12-35 2.8, qui est un équivalent 24-70, grosso modo. Et voilà, et c'était et je trouve que quand tu te mets en log avec cette cam, t'as une dynamique super agréable. Et j'ai travaillé sur tout le projet secret qu'on a fait l'an dernier avec McFly et Carlito avec cette caméra.
Super.
Après, il faut savoir quand même sur le matos, juste une petite précision, je suis vraiment un immense geek. Il faut savoir que dès qu'il s'agit de matos, je peux passer des heures et des heures à checker pour voir quelle est la différence avec une autre caméra, pourquoi celle-là est mieux. Je regarde des tests, des tutos, des machins. Enfin, il y a des moments où je peux vraiment.
Et je pense que c'est ça, ça fait partie du boulot un petit peu. Hein. Je pense qu'on soit filmmaker, réalisateur, chef op. Enfin voilà, à partir du moment où on veut vraiment travailler avec du matos, il y a quand même un côté primordial d'aller chercher les informations de pourquoi je vais utiliser ce matériel-là plutôt qu'un autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas une caméra pour tout faire, mais il y a une caméra par situation. Je pense que c'est assez juste, hein, même pour que ce soit les lentilles, etc. Tu vas vraiment choisir en fonction de ce que tu veux faire. Parmi tous les tournages que tu as fait, c'est quoi le tournage le plus dingue, peut-être, ou l'anecdote la plus folle que tu as pu avoir, que ce soit d'un point de vue technique ou humain sur le tournage?
La traversée en fait forcément partie. C'est pour moi le numéro 1, mais je vais peut-être te trouver un 2 et un 3. Alors, il y a une anecdote assez dingue. C'était toujours pour McFly et Carlito. C'était un an avant la traversée, un an ou deux ans avant. On partait faire une vidéo à Avoria. C'était Avoria? Oui, c'était Avoria. Avoria, oui. C'est à côté de Morzine, Avoria?
Ça doit l'être.
Les gens à la radio nous le diront. Puisqu'on est toujours en ligne.
Ouais, c'est ça, on est toujours à l'antenne.
En ligne, à l'antenne. Il n'y a plus rien. Et en gros, on arrive sur le décor. On commence à installer la light dans un restaurant parce qu'en fait, ils faisaient un restaurant éphémère pour accueillir avec des potes, plein de potes à eux, etc. Et ils faisaient un restaurant éphémère pour accueillir des fans. Et ça allait être genre leurs potes qui allaient servir, faire le service, etc. Et eux aussi, voilà, et ils devaient choisir le menu avec la chef qui était une chef qui était venue exprès pour ça, etc. On commence à installer et puis on commence à mettre un SL1 au plafond puisqu'on en avait pris 4.
Okay.
On commence à installer un des SL1 et là, je dis « Ah tiens, c'est marrant, il manque les clamps. Bah, ils doivent être dans le camion. » Donc on commence à... Et puis, je n'avais pas vu les autres SL1 encore. Et on commence à regarder un peu dans le camion et puis là, ma prod, Oriane, me dit « Bah non, il y a tout là, je t'ai amené tout. » Je dis « Comment ça, il y a tout ?» Là, à l'intérieur du restaurant, tu me dis qu'il y a tout le matos que je t'ai mis sur la liste de Loc. Elle me dit « Oui, il y a tout, on a tout monté, là, il y a tout. En tout cas, on a pris tout ce qu'il y avait à Paris, quoi. Enfin, tout ce que... » Et en fait, la problématique, c'est qu'on avait à l'époque une stagiaire qui, en fait, avait oublié un caddie complet de matos, genre une roulante complète de matos, sur laquelle il y avait, je crois, la moitié du matos caméra. Donc, il y avait deux assets qu'on n'avait pas. Il y avait trois SL1. Enfin, il y avait une grosse partie de la liste lumière qu'on avait, les clamps, les machins, une partie des clamps, de la bijoute électrique. Et donc, on s'est retrouvé avec la moitié du matos pour filmer la même chose. Donc, moitié de lumière, moitié machin. Heureusement, j'avais demandé à mes équipes, parce qu'on savait qu'on était en montagne, à un endroit où on n'allait pas avoir beaucoup de possibilités de se retourner. J'avais demandé aux cadreurs qui étaient venus de prendre leur matos à eux, parce qu'en général...
Au cas où, ouais.
Voilà. Moi, j'ai pas mal de mes potes monteurs qui ont, cadreurs, pardon, qui ont
un boîtier,
machin. Donc, on avait tous pris nos boîtiers. Et au son, pareil, il n'avait pas une partie de son son. Heureusement, Martin avait pris CHF. Et donc, du coup, on s'est retrouvé, heureusement, à bidouiller un truc avec le matos qu'on avait. Mais on a quand même rentré une prod avec la moitié de ce qu'on devait avoir comme matos. Donc voilà, donc en fait, on s'est retrouvé. Et donc, ça, c'est quand même une anecdote un peu, tu vois, un peu
en axe. Mais ça, c'est justement, je pense que le côté intéressant, c'est de voir justement comment tu as commencé, vachement débrouille. Comment tu fais quand tu es dans une situation comme ça? Et je pense qu'il y a ce côté-là de débrouille que tu as appris sur le tas qui te permet de savoir réagir dans ces moments-là, quoi.
Finalement, en fait, je ne crois pas qu'il y ait un seul tournage qui se passe sans accroc. Je ne crois pas qu'il y ait un seul tournage sur lequel il n'y ait pas eu une seule micro-couille. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle quand même souvent de loi de Murphy sur les tournages. Et voilà, c'est de la débrouille. Et Dieu sait que j'en ai vécu des trucs de débrouille.
Bah, voilà, t'as pas trop le choix.
Des galères... Bah, j'en ai une petite dernière. Sur le tournage de YouTube Warrior 5, je crois, avec Michou,
okay.
Qui a fait d'ailleurs qu'ils ont fait la traversée. La vidéo YouTube qui a fait qu'ils ont eu le challenge pour la traversée. On installe, pareil, très technique ce genre de tournage. Tu vois, tu me demandais des tournages techniques. Ce YouTube Warrior-là, très technique, parce que contrairement aux autres YouTube Warriors où c'était des parcours en plein air où tu vois tout le parcours depuis un point, là, les gars étaient à l'extérieur d'un château dans lequel on devait se balader avec la caméra et ils devaient quand même voir ce qui se passait dans le château. Donc, il y avait toute une histoire de retour vidéo HF type Teradek qui était très complexe parce que c'est un château, donc des murs
épais. Voilà. Épais.
Donc, il fallait à chaque fois qu'on sorte les Teradek. Non, il n'y a pas de relais. En fait, on a réussi à trouver un moyen de mettre les caméras à des endroits où on pouvait tirer des BNC
okay.
De manière à ce que à chaque fois, l'émetteur vidéo soit sur la façade, sur la façade du château qui envoyait à l'extérieur, à l'endroit où il y avait l'écran de télé où regardaient les autres, ceux qui ne passaient pas à ce moment-là. Donc ça, assez technique, mais il y avait une caméra qui était renvoyée en régie, parce qu'on avait une petite régie sur laquelle on renvoyait tout justement dans la fameuse télé, tous les flux. Et en fait, on teste un BNC de 50 mètres et il n'y a rien. Le signal part du convertisseur, puisque c'est des GoPro, donc ça passait par un convertisseur SDI HDMI. On voit que le signal sort bien de la caméra. Parce que quand on la branche directement dans un écran en HDMI, ça marche. Mais quand ça passe dans le convertisseur, ça marche toujours. Et après, le câble ne marche pas. Et en fait, le gars à l'époque m'a expliqué que sur des signaux comme ça de petites caméras type GoPro, etc., qui sont assez faibles, quand tu as un câble trop long, le signal ne va pas jusqu'au bout. Comme un tuyau de PVC dans lequel tu enverrais un peu d'eau, mais pas suffisamment forte pour que ça remonte jusqu'au bout du truc. Donc moi, dans ma tête, si tu veux, c'était inconcevable qu'un câble, qui est quand même physiquement, tu vois, c'est un câble, quoi, du début à la fin, il n'y a pas de coupe, quoi. Donc je n'arrivais pas à comprendre qu'un câble ne pouvait pas relayer l'information du début à la fin de son bout, tu vois. Et donc du coup, en urgence, on est allé à Sochaux, parce qu'on était en plein milieu de la Pampa, je ne sais plus où, là, dans l'est de la France, et on a dû foncer à Sochaux dans une boîte de prod qui nous a loué trois tourées de 30 mètres pour remplacer nos tourées c'était des tourées de 100 mètres. Pour remplacer ces tourées qui étaient trop longs et dont le signal ne marchait pas. Et là, ça a marché. Et donc, le truc un peu... au-delà du fait que toute l'équipe a aussi eu une gastro pendant la nuit avant le tournage.
Super.
Voilà, parfait. C'était le meilleur tournage.
C'est un tournage nickel, quoi.
Tu vois. et voilà, et ça rentre. Mais il y en a des tonnes et des tonnes, quoi. Moi, ça me tue.
Bah là, surtout, vous faites un volume qui est assez important. Ouais. Vous n'arrêtez pas de tourner. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose où forcément, les galères, elles s'enchaînent parce que tu as un tel volume que tu es obligé, quoi. À un moment donné... Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait un peu suivre cette voie-là que toi, tu as emprunté, qui aimerait faire ce type de contenu-là? Ça serait quoi un petit peu les grands conseils que tu donnerais pour aller vers ça?
Moi, il y a pas mal de gens, du coup, au final, qui m'écrivent sur Insta depuis que je bosse avec les gars et que voilà, ils me relayent un peu dans leur réseau. Donc, du coup, il y a des gens qui m'ajoutent liés à ça. Il y a pas mal de gens qui me posent cette question. Moi, ce que je leur réponds en général tout le temps, c'est... Construisez-vous autour de vous une famille de gens qui ont envie de faire ce métier aussi, pas forcément au même poste, ou en tout cas, au début, peut-être que tu ne sais pas quel poste tu veux faire exactement, mais en tout cas, entourez-vous de gens qui ont le même âge que vous et qui ont aussi envie de faire ce métier, ou en tout cas, même s'ils n'ont pas envie de faire ce métier, qui ont envie de vous y aider, et faites. C'est en devenant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé des tutos, j'ai pris ma mini DV, j'ai fait des petits courts-métrages tout pourris dans ma chambre tout seul pour comprendre qu'est-ce que c'était que la profondeur de champ, comment on l'a géré, comment machin. En fait, moi, l'école que j'ai suivie, c'est pas l'école de l'apprentissage scolaire, c'est l'école de l'apprentissage par soi-même. Et donc, du coup, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est allez-y petit à petit. Ne demandez pas directement à des très gros youtubeurs, est-ce que je peux être votre stagiaire, est-ce que je peux bosser avec vous, etc. Parce que en fait, pour moi, c'est sauter des étapes qui sont tellement importantes d'apprentissage, comment on fait ça, comment machin. Est-ce que j'aime vraiment faire ça? Est-ce que je préfère faire du son? Est-ce que j'aime vraiment faire du son? Est-ce que je préfère finalement faire de la voix off? Enfin, tu vois, et l'importance d'avoir une famille, parce qu'on parle beaucoup de famille du cinéma, mais de la famille en général de l'audiovisuel, c'est qu'en fait, moi aujourd'hui, les gens avec qui je bosse, c'est les gens avec qui j'ai fait les premières galères, pas payées sur les 48 heures film project, où ils venaient avec moi toute la nuit pour s'amuser, parce qu'on rigolait ensemble, parce qu'on avait envie de sortir des trucs ensemble, et que chacun, en fait, finalement, avait envie de faire le meilleur sur ce projet-là, pour que derrière, soit ils puissent l'utiliser pour le montrer, dire « Regarde, j'ai fait le son de ce 48 heures, on a eu le prix du son, machin, bidule. » Ou juste parce que on se marre bien, que il y a une pizza à la fin de la soirée, que on rigole ensemble, etc. Et donc et je pense que c'est ultra important de s'entourer de gens que tu connais, parce qu'en fait, moi, quand on me demande des stages, je sais pas quoi répondre, parce que en général, je connais pas les gens, et c'est très compliqué de juste sur une note d'intention qu'on t'envoie sur Insta avec un CV, de dire
sur un tournage, oui, bien sûr, qui viens. Va être primordial ou
voilà, parce qu'en fait, tu c'est et puis c'est pas comme ça que moi j'y suis arrivé, donc j'ai du mal, c'est pas que j'ai du mal à aider les gens, c'est pas le problème, j'adorerais aider les gens, mais je peux pas aider tout le monde, et en fait je les aiderais pas, je pense, en faisant ça, en leur donnant directement un truc très huge, alors qu'en fait c'est un peu un truc au Japon, ils font beaucoup ça, tu sors d'une grande école, on te file un poste de cadre, Mais avant d'arriver à ton poste de cadre, tu vas passer par les différents échelons qui sont en dessous de toi pour connaître ce que les gens font en dessous de toi. Bah, c'est un peu le même truc, tu vois. C'est, tu peux pas arriver directement cadre et être directement sur des gros trucs. C'est bien de passer par tes propres tournages, de passer par tes propres sets, parce que c'est comme ça que tu apprends, en fait.
Ouais. Et puis c'est surtout les gens qui te suivent sur les projets galères, bah, le jour où il y a un projet qui va payer, en général c'est cela que tu rappelles, ou en tout cas si toi tu Exactement. Suis quelqu'un sur un projet galère, le jour où il aura un budget, c'est toi qui rappelleras parce que bah, t'as été là dans les moments galères avec lui.
Exactement.
Quoi.
Bah, regarde McFly et Carlito, hein. Au début on était dans la rue en schlag, un jour on s'est fait embarquer dans une manif étudiante, ils ne voulaient plus nous laisser sortir du cordon policier, on était dans la manif étudiante et heureusement qu'il y avait un pote journaliste des gars qui les a aidés à sortir, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de McFly et Carlito, on était vraiment dans une manif étudiante tous les trois comme des couillons, on faisait des trucs de hand spinner sur la scène en demandant à des avironnais de nous prêter leur bateau. Enfin, et aujourd'hui, on est avec le président de la République, avec Caris, avec Pierre Ninet, avec. Voilà, tu vois, c'est.
Ah, il y a du chemin a été parcouru.
Voilà, et en fait, clairement. Tu ne peux pas arriver directement à ça si tu n'as pas traversé tout le reste avant. Parce que. Ou alors, si tu le fais, je suis pas sûr que tu auras appris grand-chose.
Ouais.
Et donc, du coup, si tu ne l'as pas appris, je trouve que ce que tu n'as pas appris toi-même à faire. Bah, du coup, tu sais pas comment le refaire, en fait. Mmh. C'est, tu vois, c'est... Donc, du coup, tu vas le mimiquer ? Non, ça se dit pas. Ça.
Limiter, le mimer, le...
Ouais. Ouais. Tu vas limiter, ouais. Tu vas limiter, mais tu l'auras pas appris, en fait. C'est dommage. En plus de ça...
Tu comprendras pas vraiment comment ça fonctionne, en fait, quoi.
En plus de ça, je trouve que c'est beaucoup de gens le disent, notamment Aurel San, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Mais ce truc de le chemin est plus beau parfois que l'arrivée, en fait. C'est plus beau de se dire j'en suis arrivé là à McFly et Carlito, à être le réal de McFly et Carlito, en ayant des parents médecins qui m'ont donné aucun contact, en ayant personne qui m'a pistonné et en étant juste, voilà, en ayant tout fait pour être dans ce milieu, essayer au maximum de rencontrer des gens, de bosser, de donner tout ce que j'avais, de voilà. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus
gratifiant ouais.
Voilà, c'est le mot que je cherchais, que juste de dire ouais, en fait j'ai contacté ce mec là il m'a mis sur le tournage direct et voilà, enfin je trouve qu'il y a un truc, tu vois, voilà. Mais après c'est mon mantra, c'est ma manière de faire, c'est mon truc, tu vois, mais c'est ça que je conseillerais aux gens.
Super, bah merci beaucoup Florent.
Mais de rien.
À très vite, et puis du coup on se retrouve sur ce fameux projet secret. On se retrouve sur ce fameux projet X. Super,
merci beaucoup à vous, c'était trop chouette.
À très vite,
ciao.
Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à l'écoute de Générique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Au Générique revient dans 2 semaines avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite un bel été et vous dis à très vite.